Conférence de fin d'année 2023 à Fountain Valley, message 5. Le mystère des 7 étoiles dans sa main droite. La parole de Dieu est très riche. Jamais nous ne pourrons tout connaître pleinement. Notre connaissance de lui doit continuer à croître. Exactement comme lorsque tu vas à l'école. Ne pense pas qu'après avoir fini l'école enfantine, tu connais tout. Non. Mais même lorsque tu as fini l'école primaire, est-ce que tu crois tout connaître ? Elisabeth, mais tu as fini l'école primaire. Non, tu dois continuer pour aller au collège. Et après avoir fini le collège, est-ce que tu sais tout ? Il y a encore beaucoup de choses que tu dois découvrir. Même lorsque tu as fini le collège, tu dois continuer au lycée, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de toi, Timo ? Est-ce que tu sais tout maintenant ? Non, il y a tant d'autres de choses à connaître. Combien plus ? Paul parle des richesses insondables. Dieu est si grand. Il est infini. Le Dieu tout-puissant. Le Très-Haut. Comment est-ce qu'on pourrait dire que nous le connaissons assez ? Je suis toujours impressionnée par Paul qui, dans Philippiens, dit « Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint ou que je sois déjà perfectionnée. » Je me suis dit « Ah, si un tel apôtre comme Paul peut dire cela, alors qui peut être perfectionné ? Combien d'années as-tu été dans l'Église ? Beaucoup d'années. Alors, tu dois être parfait. Tu as reçu ton diplôme ? Spirituellement, il n'y a pas de diplôme. Désolée. Pas de diplôme. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je me souviens toujours de ce qu'un frère âgé avait dit. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir dans la Bible. Je n'ai jamais oublié ça. Je l'ai entendu moi-même. Je me suis dit, quoi ? Cet homme a atteint les limites de Dieu. Peut-être que plusieurs qui étaient dans cette réunion ont pensé, oh là là, qui peut dire une chose pareille ? La parole de Dieu est sans limite. Paul parle de la hauteur, de la profondeur, de la longueur et de la largeur. Et il parle d'aimer, de connaître l'amour de Christ, pardon, qui dépasse la connaissance. Afin d'être rempli de la plénitude de Dieu. Quelle est la plénitude de la plénitude ? Savez-vous ce que Jean a dit à la fin des évangiles ? S'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, même l'océan entier ne pourrait pas contenir cela. Le monde ne pourrait pas contenir cela. Le monde entier ne pourrait contenir tout cela. Même l'univers entier ne pourrait pas contenir tout cela. Combien Dieu est grand, comme il est grand. Je suis désolée pour la personne qui a dit cela. Et il a même dit qu'il était Dieu. Plus tu le connais, plus tu réalises que tu ne le connais pas. Quelle est la grandeur de l'univers? Jusqu'où as-tu été là-haut? À quelques milliers de mètres, peut-être. Et qu'as-tu vu là? Rien. Parce que tu étais dans un avion. Cela prendra l'éternité pour connaître ce Dieu merveilleux. Et notre désir aujourd'hui est de le connaître dans notre vie quotidienne. Ainsi, louez le Seigneur pour cela. J'espère que chacun de nous auront un cœur si humble devant le Seigneur pour le connaître de plus en plus. Ce n'est pas étonnant que dans Philippiens, Paul dise « Je veux le connaître ». Parce qu'il y a tant que nous ne connaissons pas à son sujet. Tu connais quelque chose au sujet de sa résurrection ? Paul dit qu'il veut connaître quoi? La puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Dans Éphésiens 1, Paul parle de la grandeur infinie de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Essaye. Tu n'as même pas besoin de ressusciter d'autres personnes de la mort. Ressuscite-toi toi-même d'entre les morts. Combien nous expérimentons de mort dans notre chair que nous ne pouvons même pas vaincre. Ce n'est pas étonnant que nous ayons besoin de la puissance de sa résurrection. Nous avons vu ce matin que le chandelier est comme un amandier. Tu es un artiste. Notre frère là est un artiste. Est-ce que tu peux peindre ce chandelier d'or avec 6 branches et le tronc, c'est comme un arbre. Plein de quoi? De tulipes? Il est plein de tulipes? Non. D'amandes? Tu as changé d'avis maintenant, non? Je suis content que tu aies changé d'idée. Il est rempli d'amandes. Il est plein de fleurs, de bourgeons. Il est si frais. L'amandier est vraiment l'arbre qui fleurit en premier après l'hiver, après un hiver très rude. C'est une image de la résurrection merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église à Toronto est un amandier? J'espère. Tu espères. Tu n'es pas sûr. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait, ça c'est une meilleure réponse. Le Seigneur sait. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Un chandelier d'or qui brille. On parle juste de l'Église. Mais si tu demandes à quelqu'un, où vas-tu ce matin? Je vais à l'Église. Quoi? Tu es là et l'Église est là-bas? Tu vas là-bas? Ça veut dire que tu n'y es pas. Nous sommes l'Église. chandelier d'or qui brille. C'est ce que la Bible nous dit dans le dernier livre. Et c'est un mystère. Le dernier verset du chapitre 1 dit, je vais te montrer un mystère. Les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que c'est un mystère? Dis-moi le mot. C'est quelque chose de caché. Alors, est-ce que tu l'as trouvé? Je cherche. Mais même si tu le trouves, c'est quand même très mystérieux. Très mystérieux. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose qui est mystérieux? Pas seulement caché, mais c'est difficile d'imaginer, de comprendre. Tu as besoin d'une révélation. Sans révélation, personne ne peut connaître. Mais le Seigneur désire, il veut nous montrer. Je te montrerai le mystère de cette étoile. Et le mystère, il nous a dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés parce que c'est trop mystérieux. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui disait « Où vas-tu ?»« Ah, dans le chandelier d'or. » Et le chandelier d'or est placé où ? Dans la cour extérieure ? Pour que tout le monde le voit ? Non, c'est dans le lieu saint. Et qui peut entrer ? Les sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs. Qu'est-ce que ça te dit ? Ça veut dire qu'il faut être un sacrificateur. Tu dois faire partie du sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas le voir. C'est un mystère merveilleux, très étrange. D'une seule pièce d'or, il faut le frapper. Que ça devienne ce chandelier merveilleux. Et c'est Dieu qui a donné la sagesse à cette personne pour le faire. Sinon, personne n'aurait pu le faire. Sans sagesse de la part de Dieu. C'est pourquoi il faut un esprit de sagesse et de révélation et de compréhension. Et même, il faut son conseil. Même si tu as la sagesse, il te faut le conseil de comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le Seigneur était sur cette terre, il a toujours parlé en parabole. Afin que personne d'autre ne puisse comprendre. Et plusieurs ne se préoccupaient même pas. Mais secrètement, il en parlait à ses disciples. Il leur expliquait. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur de t'expliquer? Ou tu vas dans Internet directement? Et tu laisses l'intelligence artificielle t'expliquer? Comment avoir un chandelier d'or? Tu sais ce que Paul dit? C'est un sage architecte. Il sait tout? Est-ce qu'il est dit qu'il va tout bâtir? Dans 1 Corinthiens 3, que dit-il? Il a bâti seulement quoi? Le fondement. C'est la seule chose qu'il a faite. Et puis, il dit... Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Ça veut dire que tu as ta partie. Tu es une partie de cet édifice. Ainsi, l'église dépend du pasteur. Comme le pasteur édifie. Ou comme les anciens et de vie. C'est juste?
Non.
Que dit Paul? Prenez garde à la manière dont vous bâtissez sur ce fondement. Est-ce qu'il t'a dit comment bâtir? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Avec un marteau? Puis l'autre avec un autre outil pour bâtir? Quel était son accent? C'est les matériaux. Le bois, le foin, le chaume, non? Quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ce sont des choses très bon marché, n'est-ce pas? D'où reçois-tu de l'or? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner de l'or aujourd'hui? Est-ce que tu es venu au Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, je veux payer le prix pour acheter de l'or de toi ?» Qu'en est-il de toi, Néhémia? Parce que tu n'as pas ce concept. Seigneur, j'ai besoin de plus d'or aujourd'hui. Pas de l'argent physique, mais c'est un argent céleste très spécial. C'est Dieu lui-même, c'est la nature de Dieu. Et chaque parole de Dieu est plus précieuse que l'or. C'est la nature divine de Dieu, pas la doctrine. Nous avons tous tant de connaissances, mais nous avons peu d'or. As-tu déjà considéré combien tu as d'or de sa part? Tu l'as considéré? Non, il n'a jamais considéré. Mais tu sais combien d'argent tu as dans ton compte en banque? Tu vois? Tu sais combien d'argent tu as à la banque? Mais tu ne sais pas combien d'or tu as pour l'édification du chandelier d'or de Dieu. Qu'en est-il de toi, Juani? Nous sommes tous pareils. Parce que ce n'est pas dans notre concept, dans notre cœur, dans nos pensées. Seigneur, j'ai besoin de plus de ta substance. Pas pour moi-même, mais pour l'édification de ton Église. Pour l'édification de ce chandelier d'or. Comment chacun de nous peut avoir tant d'or pour le chandelier? Steve, combien tu dors? Pas assez. Moi non plus, je n'en ai pas assez. Est-ce que tu en as assez? Peut-être que tu en as un peu. C'est pourquoi il faut venir ensemble et apporter notre or. D'où vient l'or dans Exode? C'est des offrandes volontaires. Si tu n'es pas d'accord de donner ton or, ta bague, ton collier, tes boucles d'oreilles, tout l'or que tu as, et de l'amener, de le consacrer à Dieu pour l'édification de ce chandelier d'or merveilleux. D'où crois-tu que Moïse a eu tout cet or? Tous ceux qui voulaient consacrer volontairement leur or. Peut-être que tu n'en as pas beaucoup, et moi non plus, et toi non plus, mais un petit peu. Bien. Est-ce que tu es d'accord de le donner pour l'édification du chandelier d'or? N'amène pas du chenille. Dieu veut de l'or pur. Beaucoup d'entre nous n'y ont jamais pensé. Nous voulons gagner Christ. Il est le vrai or. L'Église. Quelle est la définition de Paul dans Éphésiens ? C'est la plénitude d'une musique magnifique. La plénitude des enseignements et des doctrines. Plein d'œuvres et d'activités. Est-ce que c'est l'Église ? Notre jeune frère sait ce qu'Éphésiens 1 dit au dernier verset. L'Église, c'est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et où ? D'où vient cette plénitude ? De chacun de nous qui gagnons Christ, qui expérimentons Christ. As-tu jamais pensé que ton expérience de Christ est pour l'Église? Sinon, d'où pouvons-nous avoir la réalité? L'argent. L'argent, c'est la rédemption. Le Seigneur veut nous sauver tous. Mais combien de saluts avons-nous tous expérimenté? D'où vient l'argent? Tu sais, la Jérusalem céleste est aussi bâtie de pierres précieuses. Qui sont les pierres précieuses dans la Nouvelle Jérusalem? Le fondement, ce sont les 12 apôtres. Est-ce que tu es une pierre précieuse? Il aime sourire. Tu dois dire oui, je suis dans le processus de transformation d'argile, parce que nous sommes tous faits d'argile. Et on doit être transformé de jour en jour pour devenir une pierre précieuse par la substance, par la température et par la pression et par le temps. As-tu déjà vu une pièce de bois pétrifiée? Est-ce que tu en as une? Je ne l'ai plus. Est-ce que tu es pétrifié? Pour être une pierre précieuse, c'est des pierres vivantes. Pierre parle de pierres vivantes. Précieuse pour Dieu. Même le Seigneur est précieux pour Dieu. Il a été renié par les Juifs, mais précieux pour Dieu. Ça m'est égal ce que les gens disent de vous et moi, mais je me préoccupe de ce que Dieu dit. Peut-être qu'ils te haïssent, c'est égal. Je ne vais pas me battre avec qui que ce soit, ça m'est égal. Tant que le Seigneur s'occupe de toi et t'apprécie, et que tu es précieux pour lui, ça suffit. Peu importe ce que les autres gens disent. Les Juifs, quand ils étaient sur la terre avec le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'ils voyaient le Seigneur? Ils ont dit beaucoup de choses négatives à son sujet, des mensonges. Comme quelqu'un qu'on connaît ici aux États-Unis. « mais il était précieux pour Dieu. Ainsi, quelle est notre valeur aux yeux de Dieu? Es-tu déjà venu au Seigneur comme à une pierre vivante? Tu viens à lui comme au Sauveur. Et Pierre dit, tu viens à lui comme à quoi? Une pierre vivante. À quoi sert une pierre? Elle sert à être une pierre précieuse pour l'édifice de Dieu, même la pierre angulaire. C'est à la fin, on voit cette ville en or précieux. Elle a la gloire, comme Dieu au chapitre 4. La gloire d'une pierre de jaspe. Apocalypse est plein d'images. Il faut avoir une vision. Ne lis pas seulement. Il faut voir la vision. Il faut voir cette image. Il y a un proverbe qui dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. C'est rempli d'images merveilleuses. Un chandelier d'or qui brille. Lorsque tu retournes à Toronto, à Vancouver, tu dois dire au Seigneur, nous voulons un chandelier d'or ici. N'utilise pas le mot église, église, église. Si tu demandes à quelqu'un qui est l'église, qu'est-ce que l'église, personne ne peut te dire. Personne ne pourra te dire que c'est un chandelier d'or. Tout le reste est bon marché, mais pas le chandelier d'or. Il faut cette vision. Et c'est un mystère pour tant de gens. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Que le Seigneur nous donne la compréhension. Nous n'avons pas besoin seulement de vie, mais nous avons besoin de la vie de résurrection. Dans Jean 11, le Seigneur n'a pas seulement dit « Je suis la vie », mais il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Pourquoi ? Parce que la mort a pénétré dans notre être. C'est pourquoi on est souvent faible dans beaucoup d'aspects. Pour le monde, nous sommes pleins d'énergie et de puissance. Mais lorsqu'il s'agit du sacerdoce, lorsqu'il s'agit d'être obéissant au Seigneur et de le suivre, nous sommes sans puissance et nous sommes morts. Ainsi, il ne faut pas seulement sa vie, mais sa vie de résurrection. C'est pourquoi Romains 8 dit que ce corps est un corps de mort. Le corps de mort. Paul dit, malheur à moi. Qui va me sauver du corps de cette mort, de ce corps de mort? Tu penses que tu as un corps en bonne santé? Oui, pour les choses mondaines, pour le business, tu es très en forme. Mais lorsqu'il s'agit de choses spirituelles, tu es mort. Non? Est-ce que ce n'est pas un peu ton expérience? Beaucoup. Pour faire d'autres choses dans le monde, on le fait volontiers. Mais lorsqu'il s'agit d'obéir, de faire la volonté du Père, Ah, je suis fatiguée. Pour faire autre chose, tu es réveillée, même jusqu'à 2h du matin. Mais lorsque tu lis la Bible, après 5 minutes, tu es si fatiguée, tes paupières tombent. Il fait un jeu de mots avec les paupières qui sont aussi lourdes que du plomb. Tu ne peux même pas les ouvrir. Est-ce que tu as des paupières ou des paupières de plomb? Parce que la mort est là. C'est pourquoi dans Romains 8, il parle de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit qu'il demeure en nous. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas juste l'Esprit du Seigneur, mais le celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en nous. Pourquoi? Pour nous donner la vie à ce corps mortel. Beaucoup de gens demandent, es-tu fatigué? Ça ne veut pas dire que je suis un super humain, non. Mais lorsqu'il s'agit de faire la volonté du Père, il y a la vie de résurrection pour soutenir notre corps mortel. C'est pourquoi le chandelier d'or est plein d'amandes. Il faut voir la vision. Je ne peux pas vous expliquer. Mais cette image doit tout vous dire. Ce matin, nous avons vu déjà que nous devons être remplis d'huile d'or. Zacharie 4 nous dit que c'est de l'huile d'or, l'huile dorée. As-tu déjà vu de l'huile dorée? Tu vois cela dans Zacharie 4, pardon. Qui sont les deux oliviers? Ils donnent de l'huile d'or pour le chandelier. C'est une huile spéciale. Oui, bien sûr, tu en as un peu. Il y a l'onction en toi. Est-ce que tu as l'onction en toi? C'est de l'huile d'or. L'huile dorée. C'est les 7 esprits de Dieu. Le chiffre 7 est merveilleux. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Ce n'est pas très important maintenant. Une autre fois. Mais il faut que cette huile nous remplisse. Le Seigneur ne va pas te remplir pour une semaine. J'ai assez d'huile pour une semaine. Qu'en est-il de prendre de la manne dans le désert? Est-ce que tu peux en prendre pour une semaine? Non. Pour 2 jours? Non. Alors combien est-ce que tu peux en prendre? Pour une journée. Quoi? Seulement pour un jour? Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel, combien penses-tu que tu devais prendre de manne? Parce que le Seigneur a dit, si tu en prends pour 2 jours et que tu ne l'as pas fini, la manne produira des vers. Et tu mangeras des vers et pas de la manne le 2e jour. C'est la même chose. Chaque jour, il faut manger le pain de vie. Il faut manger de l'arbre de vie. Il faut boire de l'eau vive. Et il faut respirer le souffle de vie. Ça, c'est la manière de continuer. Je n'ai pas d'autre méthode à vous donner. Ça, c'est le chemin de Dieu. Le chandelier d'or a assez d'huile. Il n'a de la place que pour contenir de l'huile pour un jour. C'est pourquoi le souverain sacrificateur doit entrer chaque jour pour mettre de l'huile fraîche dans le chandelier. Il doit le couper chaque jour. Combien de fois est-ce que tu te rases chaque jour? Est-ce que tu te rases une fois par mois? Qu'est-ce qui se passe si tu te rases seulement une fois par mois? Tu te rases tous les jours. Ainsi, il y a certaines choses qui sont importantes de faire tous les jours. Ça, c'est la loi spirituelle, la loi de vie. Si tu ne le fais pas, alors ta vie spirituelle ne sera pas normale. Et si tu n'ajoutes pas de l'huile au chandelier d'or et que le souverain sacrificateur Aaron dit « Oh, j'ai pas envie aujourd'hui, je prends une semaine de vacances. » Il y aura des soucis. Apprends à ne pas être paresseux spirituellement. Sois diligent. C'est ce que Pierre dit. Qu'a-t-il dit dans 1 Pierre 1? Il dit, soyez diligent. Alors le chandelier sera brûlant et plein de lumière. Voilà. On a assez parlé du chandelier, revenons à Apocalypse. Et parlons du deuxième mystère, le mystère des 7 étoiles. Il y a plusieurs années, j'ai presque entendu personne en ce moment-là qui parlait des étoiles dans Apocalypse 1. Ils parlent tous du chandelier d'or. Pas toujours. Mais ils l'ont mentionné. Et on a même un chant qui parle de l'église qui est le chandelier. C'est tout. Qu'en est-il des étoiles? Je me souviens qu'en 2010, à Bangkok, il y avait une conférence pour ceux qui servent. Et nous avons parlé du mystère des 7 étoiles pendant 4 jours, 4 ou 5 jours. Au sujet du mystère des 7 étoiles. Aujourd'hui, on n'a qu'une demi-réunion. Vous avez lu ces messages certainement, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont dû lire ces messages. Beaucoup de gens qui ont lu ces messages n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient que je parlais d'eux. Je ne parlais pas d'eux. C'est le Seigneur qui parlait peut-être à leur sujet. Je me souviens que pendant une des réunions, je lui ai demandé qu'est-ce qui est le plus important, les chandeliers d'or ou les étoiles. Tous sans exception, m'ont répondu « Les chandeliers d'or sont plus importants. » Et lorsque je leur ai dit « Non », ils étaient tous surpris. Et certains sont même venus me dire « Comment peux-tu dire que les étoiles sont plus importantes que les chandeliers ?» Qu'est-ce qu'il faut dire ? Regardez aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que c'est merveilleux, l'Amérique ? USA. C'est un pays merveilleux. Mais, si les démocrates règnent, que va-t-il arriver aux États-Unis ? Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Les États-Unis ou le gouvernement des États-Unis? N'est-ce pas, Steve? Regarde ce qui arrive en Arizona avec cette crise de la frontière. Est-ce que c'est beau de vivre là-bas? Non, c'est horrible. Tu diras c'est les États-Unis, mais ça dépend de qui règne. En fait, le gouvernement devrait être au service de la nation, n'est-ce pas? Il y a les ministères de la défense, les ministères. Le gouvernement doit servir. Mais maintenant, c'est devenu quoi? Ceux qui règnent sur la nation. Ils font de tout le monde leurs esclaves. C'est un exemple très important. Les serviteurs sont devenus les maîtres. À qui le Seigneur a-t-il écrit ces sept épîtres ? À l'église à Laodicée ? Est-ce qu'il les dit cela ? À l'église à Éphèse ? Non ? Aux messagers de l'église. Que sont les messagers ? Ce sont les étoiles. Lorsque j'écris une lettre à l'église à Toronto, qui va l'ouvrir ? Toi ? Ce sont les anciens qui représentent l'Église. C'est normal. C'est pour ça que le Seigneur a établi les anciens, pas pour régner sur les Églises, pas pour être les maîtres, pas pour être les rois. Exactement comme le Seigneur a dit que le Fils de l'homme était venu pour servir. Pas pour être servi. Qui doit servir qui? Est-ce que tu es le frère responsable ou est-ce que tu es un serviteur de l'Église? Les gens pensent que les anciens ont une position. Pendant des années, j'ai dit. Qu'être ancien, ce n'est pas une position. S'il y a une position, alors c'est la position d'un esclave. Vince, est-ce que tu attends que tes enfants te servent ? Tu es leur père. C'est à eux de te servir ? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ? Est-ce que c'est toi qui les sers ? Vraiment ? Est-ce que c'est toi qui les sers ? Les étoiles sont très importantes. Ne pensez pas que les étoiles ne soient pas importantes. C'est pourquoi le Seigneur a écrit aux étoiles. Les étoiles, ce n'est pas des anges. Je n'ai jamais vu d'anges dans les églises où je suis allée. Peut-être c'est des anges morts, mais ce n'est pas des anges. Il n'y a pas des anges. Mais même ce mot angelos, c'est quoi? C'est un serviteur, un messager. Un serviteur, un messager. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent être anciens. Un serviteur. Le Seigneur est venu pour nous servir. Pour nous servir. Même Pierre dit que les anciens. Il était aussi un ancien dans l'église à Jérusalem. Il a dit que les anciens ne doivent pas régner comme des rois. Ça, c'est une traduction qui dit que ça ne doit pas être comme un dieu en plomb. Vous connaissez les soldats de plomb? Et lui, dans cette traduction, il a employé un dieu de plomb, un dieu, un faux dieu. Ne sois pas quelqu'un qui règne. Parce que l'Église n'est pas à toi. L'Église appartient à Dieu. Les apôtres sont des serviteurs. Même le Seigneur, lorsqu'il est venu dans Ésaïe, il nous a dit clairement qu'il est venu pour nous servir. C'est le serviteur de Dieu, le fidèle. Et sois un exemple. Combien le Seigneur a donné d'exemples à ses disciples? Il a lavé les pieds de qui? Le Seigneur a lavé leurs pieds. Et il leur a dit, « Je vous fais cela afin que vous ayez un exemple à suivre. » Le Seigneur les a servis. Il les a servis. Ainsi, les messagers. Les étoiles sont très importantes. Lisons quelques versets. Dans le résumé, il faut qu'on revienne au résumé. Il y a quelques versets. Quelqu'un peut lire Daniel 12. Daniel 12, verset 3. Concernant la question des étoiles. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À nouveau. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce que tu es une étoile? Les étoiles sont célestes. Ainsi, ce n'est pas juste une question corporative. Est-ce que tu as déjà vu une étoile corporative? Les étoiles sont des étoiles individuelles qui brillent. Ainsi, ce n'est pas seulement le corps, le corps, le corps. Et comme on a chanté ce chant ce soir. Parce que j'ai passé par là. Et j'ai vu à la fin. Tout le monde dépend du corps. Mais qu'en est-il si le corps est malade? Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque le Seigneur a écrit ou cette église, à la fin, il dit à celui qui vaincra. Ainsi, ce n'est pas le corps, mais l'individu qui vainc. Sinon, je sais que tant de gens diront, je sais que c'est faux, mais c'est le corps. Quel corps ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont vu qu'il y avait tant de choses fausses. Mais ils ne peuvent pas partir parce que c'est le corps, c'est l'église, une ville, une église, je ne peux pas partir. Ainsi, le soi-disant corps est devenu une prison. Et le Seigneur dit à celui qui vaincra, tu dois vaincre. Parce que ce n'est pas toute l'Église qui sera une Église vainqueur. Mais même à Philadelphie, qui plaît à Dieu, le Seigneur dit, garde ce que tu as. Parce que j'ai vu tant d'églises qui ont perdu ce qu'elles avaient. Ainsi, n'accentue pas seulement un aspect pour négliger un autre. Tu es responsable de toi-même. Oui, il y a l'aspect corporatif, mais il y a aussi un aspect individuel. C'est pourquoi, dans l'Église catholique, ils n'osent pas partir. Parce que si tu pars de cette soi-disant Église, tu es maudit, tu es perdu pour toujours. C'est le même principe qu'on a vu dans tant d'Églises. Non. Oui, il y a un aspect corporatif. L'Église, le corps de Christ, c'est vrai. Mais il y a aussi un aspect individuel à celui qui vaincra. Au jugement de Christ, le Seigneur ne dira pas « Ah, maintenant c'est le tour de l'Église à Fontaine-Vallée. S'il vous plaît, levez-vous tous. » Est-ce qu'il va juger corporativement ? Non. Chacun de nous devra rendre compte de sa propre vie, comme il a vécu sur cette terre. Tu ne donneras pas un compte-rendu pour l'Église. Oui, l'Église est corporative pour l'expression, mais la responsabilité est individuelle. Tu es responsable pour ta vie spirituelle. Ne blâme pas les autres. Tu ne peux pas dire « je suis comme ça » parce que l'Église était comme ça. Donc, soi-disant, tu dois aller de la même manière ? Non. Même si c'est faux. Non. Dieu est juste. À celui qui vaincra individuellement. Pas à l'Église qui vaincra, mais à celui qui vaincra. C'est sérieux. Et nous devons tous voir cela. Et c'est pourquoi l'Église a besoin d'une Église corporative. Pourquoi une étoile, corporative ? Parce que ce n'est pas seulement un ancien, parce que sinon il deviendra le roi. C'est 3 ou 4. Pour être des témoins. Pas juste un ancien. Ou alors tu as un groupe de 5 anciens et puis il y en a un super ancien. Non, y a pas, ça n'existe pas. Non. Mais ils portent le fardeau ensemble. C'est pourquoi tu as les étoiles, les messagers. Ils doivent être des étoiles qui brillent. Est-ce que tu brilles? Si tu ne brilles pas, tu n'es pas qualifié pour être un des messagers. Et tu dois être céleste. Les étoiles sont des corps célestes. Souvenez-vous que toute la ville de Jérusalem descend des cieux de Dieu. Ainsi, il faut qu'elle soit céleste. Mais si les conducteurs ne sont pas célestes, mais terrestres, ne soyez pas surpris que toute l'Église soit terrestre et sale, pleine de terre. Ne soyez pas surpris. C'est pourquoi c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur a écrit aux messagers de chaque église. C'est très normal. C'est très normal. Ainsi, il faut être céleste. Il faut briller. Et, comme Daniel dit, tu dois être quelqu'un qui ont conduit plusieurs à la justice. À la justice. Peut-être que tu connais beaucoup de doctrines, mais que toi-même, tu n'es pas juste. Pour être un messager, c'est très important. Parce que tu es responsable pour le troupeau entier. Tu ne dois pas être le troupeau de Dieu. C'est ce que Paul a dit aux anciens à Éphèse. Lorsqu'il allait à Jérusalem, il a appelé les anciens de l'église à Éphèse. Et il leur a dit, « Dieu vous a établi pour paître le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de Dieu, pas votre troupeau. Le troupeau de Dieu. » Elles pourraient être des exemples. Et souvenez-vous des qualifications. C'est pas simple. Et il faut aussi être dans la main droite de ce grand souverain sacrificateur glorieux. Tu es dans sa main droite. Tu es tenu dans sa main. Ça veut dire que tu es sous son autorité. Tu n'as pas l'autorité en toi-même. Si tu es hors de sa main droite, au chapitre 1 d'Apocalypse, alors c'est terminé. Si tu n'es plus dans sa main droite, ça veut dire que tu n'es plus sous son autorité. Et à la fin, l'Église devient ton Église. Ce n'est plus son église. C'est une responsabilité très grande. C'est très grave. C'est pas facile. Ce n'est pas une position. Je dis cela depuis des années et je le répète aujourd'hui. Ne pense pas que tu as une position. Non. Si c'en est une, eh bien c'est celle de serviteur. Tu sers pas seulement le Seigneur, mais les saints, comme le Seigneur. Il a servi. C'est très important. C'est important. Pas seulement en tant qu'ancien, mais il y a beaucoup de services différents. Certains ne sont pas anciens, mais ils sont diacres. Je suis responsable de ce groupe. Je suis responsable de ce groupe. Je conduis la réunion des sœurs. Je suis une supérieure sœur. Mon Dieu. Nous servons selon la mesure de la grâce. Personne n'est au-dessus des autres. Si tu penses que tu es plus élevé que quelqu'un, tu es déjà déchu. Tu es déjà déchu. Tu avais le temps de t'en aller. Et de te réinscrire. Tu dois quitter cette position. Tu es trop élevé. Descends. Non. Nous servons les uns les autres. C'est si merveilleux. C'est si merveilleux de se servir les uns les autres sans position. Alors tu es quelqu'un aussi qui est d'accord d'écouter les autres. C'est pas que tout le monde doit t'écouter. Ça, c'est dévastateur. Si les étoiles sont dans la main droite du Seigneur, fidèle. Et que fait un messager? Tu écris ton propre message? Tu es un messager qui écrit ton propre message aux églises. Alors tu n'es pas un messager. Un messager ne fait que donner un message qui a été donné par Dieu. Tu es envoyé par Dieu pour donner un message. N'écris pas ton propre message. Sinon, tu deviens un faux enseignant, un faux prophète. Et tu éconduis l'Église. Et tu penses que tu es le chef. Tu penses que tu connais mieux que les autres. Tu es un petit peu plus élevé. Non. Non. Nous ne le sommes pas. Chacun, Paul dit, sert selon la mesure de la grâce que le Seigneur t'a donnée. Même Pierre dit la même chose. Chacun a une mesure différente pour nous servir les uns les autres et nous servons selon la mesure de grâce. Si nous ne faisons pas cela, tôt, tard, il y aura des problèmes, de l'envie, des disputes. Pourquoi c'est lui et pas moi? Pourquoi moi je dois t'écouter et pas toi qui m'écoutes moi? Qui es-tu? Si ça se passe dans la vie de l'Église, alors nous tombons dans le même problème que le diable au tout début. C'est pourquoi il y a tant d'organisations religieuses dans ce monde qui n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas la bonne manière. À Sion, dans la Jérusalem céleste, ce n'est pas la bonne. De cette manière que ça se passe. Ainsi, le mystère des sept étoiles. Les frères peuvent donner un message. Ceux qui prient devant le Seigneur. Mais tu dois être toujours prêt. Pas seulement quand c'est ton tour. Quand c'est ton tour, oh, c'est mon tour. Il faut que je passe du temps avec le Seigneur. Peut-être que je le fais samedi. Samedi. Non, tu dois être toujours prêt, à tout moment. Alors le Seigneur te donnera un message à donner. Tu dois être fidèle. Et c'est pour ça, regarde Jean, regarde les épîtres de Jean. Il n'a partagé que ce qu'il avait vu et entendu. Rien d'autre et rien de plus. C'est une vraie étoile. C'est vraiment une étoile. C'est pourquoi nous avons tant apprécié un Jean. J'espère que vous aussi avez apprécié ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et cette vie a été manifestée. Et ce que nous avons vu, nous vous le partageons aussi. Il donne juste le message de ce qu'il a vu et entendu. Et c'est pour ça qu'il dit, voici le message. Il n'a pas dit, c'est mon message. C'est que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que tu aimerais donner un tel message? Un message de lumière? Est-ce que c'est si compliqué? Non. Ce n'est pas si compliqué. Et le deuxième message, c'est que Dieu est amour. Ces deux messages, il les a donnés. Et nous devons tous voir cela. Nous sommes des messagers, simplement. Et dans Malachie 2, bien sûr, on pourrait dire âgé, mais on va sauter à Malachie 2. Après, on pourra s'arrêter. Je n'ai pas besoin de plus parler. Malachie 2, versets 7, 6 et 7. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Est-ce que tu veux être un sacrificateur? Tu dois être ce genre de sacrificateur. Souvenez-vous de ces versets. Nous avons lu Malachie il n'y a pas longtemps. J'espère que vous vous en souvenez. Ce n'est pas facile d'être un sacrificateur. En même temps, nous devons être des messagers. Des messagers. Quelle sorte de messager? Qu'est-ce qu'il dit ici? Un messager, un envoyé de l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui doit être sur ses lèvres? La loi de la vérité et la loi de l'Éternel. Parce qu'il est un envoyé. Ce n'est pas facile. Ne pense pas que ce soit facile, mais ne dis pas « c'est pas facile, je ne vais pas être un sacrificateur ». C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Le Seigneur a besoin de messagers fidèles dans toutes les églises. Sans ce genre de messager, je ne sais pas comment les chandeliers d'or vont être des témoignages de Dieu. Il y a deux mystères ici qui sont inséparables. D'un côté, c'est le chandelier d'or. De l'autre côté, il y a les sept étoiles. et ces deux doivent aller ensemble pour que ça fonctionne dans le chandelier. C'est simple et clair, n'est-ce pas? Amen. Pierre, amen. Et même le Seigneur lui-même, à la fin de la Bible, nous dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Il n'est pas juste le sauveur. Il n'est pas seulement ce grand souverain sacrificateur qui marche au milieu des chandeliers, mais il est l'étoile brillante du matin, comme récompense pour ceux qui sont fidèles et qui vainquent. Le Seigneur a dit, il a promis, de leur donner l'étoile brillante du matin. Quand est-ce qu'elle apparaît, cette étoile brillante du matin? Avant le soleil, à 10 heures? À 7 heures? À quelle heure? Entre 4 et 5, c'est juste. Lorsque tout le monde dort. Et ceux qui dorment encore ne verront pas l'étoile du matin. Et lorsque le soleil brille, c'est trop tard. Ainsi, le soleil qui brille, c'est la venue publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui sont réveillés et qui attendent le retour du Seigneur, eux verront l'étoile brillante du matin. Et c'est une récompense pour ceux qui sont réveillés et qui se préparent pour le retour du Seigneur. C'est l'étoile brillante du matin. J'espère que nous verrons tous cette étoile brillante du matin. Ok? Ayuson? Soyez vigilants pour voir cette étoile du matin. Dis au Seigneur, je veux voir cette étoile. Parfois, il faut te réveiller un peu plus tôt. C'est pas si mauvais. Afin de tous être prêts pour le retour proche du Seigneur.